Les éléments de mobilier ont été retrouvés, identifiés, ça fait un certain temps déjà, presque une vingtaine d'années en fait. Et nous, on est sur ce travail de restitution. Depuis 5-6 ans, en fait, les études ont commencé sur la dimension historique et puis sur les contenus il y a 5-6 ans. Le chantier, à proprement parler, de restauration des espaces, il y a un peu plus d'un an. Et donc on y arrive là, enfin, à montrer, à ouvrir tout cela au public depuis quelques jours. Donc voilà. Donc c'est tout simplement pour dire que c'est un travail de longue haleine finalement, que dans le domaine du patrimoine, il faut être patient et persévérant et qu'on y arrive. Donc c'est quelque chose d'assez unique à plus d'un titre pour nous, parce que à la fois dans la forme, c'est quelque chose de nouveau. Auparavant, quand on a réouvert des espaces au château, quand on les a valorisés, on donnait à voir en l'état. Et là, pour la première fois, pour ce qui nous concerne, on est dans un projet de restauration et de restitution à l'identique. Parce que à l'origine, il y a l'existence d'un ensemble de mobilier cohérent. Donc dans la forme, c'est totalement nouveau. Ça nous permet aussi, dans ces ouvertures successives, de donner encore plus à voir et d'avoir maintenant l'intégralité du rez-de-chaussée du château d'ouvert au public. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années encore, on n'avait que 3 pièces d'ouvertes au rez-de-chaussée. Et voilà, donc c'est plutôt un progrès. Et exceptionnel aussi par la nature même de ce mobilier donné à voir, puisqu'il s'agit de mobilier art nouveau. Et que c'est assez rare et exceptionnel, la présence d'un ensemble mobilier de cet ordre, de cette nature-là, en fait, ensemble, parce que c'est non seulement un lit, un chevet, mais aussi des boiseries, des armoires, etc. Enfin, c'est un ensemble complètement cohérent, conçu pour ce lieu. C'est un art d'une époque particulière, de la fin du 19e, du début du 20e siècle. C'est une époque où on construit pas ou peu de châteaux. On construit de grandes demeures encore, on aménage des grandes demeures, mais disons qu'avoir ce mobilier présent en centre Finistère, dans un lieu qui, effectivement, lui-même, dans sa forme, est son usage est quand même relativement exceptionnel aussi. En fait, c'est rare globalement, parce que c'est peu fréquent en région. En même temps, ça a quelque chose d'assez normal dans la conception qu'on pourrait avoir de la belle époque, dans toute sa splendeur d'une certaine manière, quoi, en fait, parce que c'est représentatif de cette période historique. Pour certaines personnes, en tous les cas, on était dans une richesse incroyable, des moyens considérables et un goût pour une avant-garde. Donc ça réunit tout ça. Même si ce n'était pas forcément évident, puisque, encore une fois, par rapport à l'aménagement de tout le reste du château, était beaucoup plus traditionnel et classique que cet ensemble mobilier-là, en fait, qui, contrairement à en tout cas, beaucoup de choses dans ce château, n'avait pas totalement disparu, en tout cas dont on a retrouvé une partie de la trace, qui a permis, donc, encore une fois, au conseil départemental, puisque c'est lui qui a l'initiative de ce gros chantier, de lancer ce projet de reconstitution à l'identique. En 2003, en fait, on est une période où le Conseil général, à l'époque, a un gros projet de valorisation du patrimoine global et de l'histoire du château et lance une série d'études sur le château, dont une recherche et un inventaire sur le mobilier. Et c'est dans le cadre de cette étude qu'est retrouvée une partie des boiseries qui meublait la chambre de James de Kerjégu et qu'une conservatrice du musée des Arts Déco identifie comme étant du mobilier Bing, en fait, alors qu'elle-même est en train de projeter une grosse exposition au niveau européen, en fait, avec plusieurs autres musées de cette maison qui revendait du mobilier Art Nouveau. L'étude de cette conservatrice permet d'identifier le mobilier ici de Trévarez et donc son caractère assez exceptionnel. Et donc lancer la restauration des boiseries qui étaient encore au château, pas dans la chambre, mais qui n'avaient pas disparu. Restauration d'une partie de ce mobilier pour être exposée et recherche parallèlement du reste, c'est-à-dire du lit en fait, qui manquait dans cet ensemble. En fait.
Il n'y a pas eu d'éléments aussi d'art déco ou autre ?
Non, on est vraiment, en tous les cas, dans ce que vous allez découvrir, en fait, sur, effectivement, uniquement un style art nouveau. En fait. Et comme on est sur 2 pièces restituées au bout de cette aile qui était totalement fermée au public, en fait, l'objet de notre travail à nous aussi, ça a été d'apporter du contenu pour permettre d'ouvrir l'intégralité de l'aile en fait, qui était jusqu'à là fermée au public, donc, c'est-à-dire l'ensemble des 4 pièces, mais aussi le vestibule et le couloir par lequel on est passé, évidemment, parce que jusqu'alors, on ne visitait que certaines pièces du rez-de-chaussée et un petit peu à l'étage. L'idée, c'était aussi de donner la circulation totale, donc de passer dans le bureau, l'antichambre, le cabinet de toilette et la chambre.
Pour ces appartements privés, on n'est vraiment que sur une commande passée à la galerie Bing.
qui était la galerie de Monsieur Siegfried Bing, qui était originaire d'Allemagne et qui s'est installé à Paris à la fin du 19e siècle.
Il était surtout réputé à la fin du 19e siècle à Paris pour être l'un des principaux importateurs d'objets japonais et notamment d'estampes. Et il avait même créé une revue, Le Japon Artistique, qui proposait voilà, de montrer un peu à quoi ressemblaient les arts japonais. Et notamment, on a quelqu'un comme Van Gogh qui venait vraiment s'approvisionner en estampes japonaises et beaucoup d'autres artistes. Il a commencé en fait sa galerie beaucoup avec des objets japonais, mais d'autres objets, notamment des objets de chez Tiffany ou autres. Et puis à un moment, il ouvre vraiment une galerie qu'il appelle l'Art Nouveau. Donc l'Art Nouveau, d'ailleurs, ça vient donc du nom de cette galerie. Et il propose, comme on le voit sur la photo ici, hop, il propose quelque chose dont on a beaucoup l'habitude maintenant, parce qu'on voit que les magasins de décoration vous proposent des intérieurs un peu comme si c'était chez vous. En fait, c'est l'intérieur rêvé où on va vous montrer de la petite cuillère jusqu'au lit, jusqu'au tableau et tout ça, aux objets décoratifs, comment vous pourriez meubler votre intérieur. C'était un peu l'objectif de Monsieur Bing. Pour l'époque, c'était très novateur. Ça n'existait pas, en fait. Et alors, le côté rigolo, c'est qu'en fait, en 1900, pour l'Expo Universelle qui était à Paris, il va ouvrir un pavillon, un showroom, là aussi, qui se trouve juste à côté du village breton. Et comme de par hasard, James de Kergégu est le président du comité départemental breton pour l'exposition universelle. Et donc c'est évident que James de Kergégu est passé dans le pavillon Bing et a dû voir, et puis ça lui a plu, et puis en 1903, il décide de passer commande. Et voilà, alors je voulais vous montrer. Donc ça c'est dessiné par Georges Defeur, c'est donc un petit boudoir, et je voulais surtout vous montrer le cabinet toilette qui était dessiné par Georges Defeur dans ce pavillon donc de l'Expo universelle. Et vous voyez les mobiliers donc on peut imaginer. Alors c'était pour un cabinet toilette de femmes, donc c'est un peu différent probablement au niveau de l'ambiance que ce qu'on avait à Trévarez. Mais vous voyez le mobilier qui était proposé, la coiffeuse, le meuble dont je vous parlais avec alors là c'était carrément équipé vraiment d'un lavabo qui devait être raccordé à un système d'eau, ce qui n'était probablement pas le cas dans le cabinet toilette de Trévarez, mais où on devait quand même avoir un meuble dans lequel on pouvait faire une petite toilette, vous savez, quand on a un broc à eau avec une bassine, quelque chose d'assez simple. La coiffeuse, c'était certainement dans cet esprit-là. À Trévarez, on fait bien la différence entre cabinet de toilette et salle de bain parce qu'on a les deux. Un cabinet de toilette, ça va être un endroit qui ressemble à un petit boudoir, un salon, dans lequel on va plutôt se préparer, faire une petite toilette, où on va encore retrouver des brocs à eau avec une bassine pour dire de faire une petite toilette de matin ou de soir. Mais on va aussi trouver, juste apposant les cabinets de toilette, une salle de bain, comme c'était le cas ici pour James de Kergégu, où là, du coup, on avait du carrelage sur les murs, sur les sols, et on avait carrément soit une baignoire, soit carrément ce qu'on appelle, nous, ici, une piscine, c'est-à-dire qu'on descendait dans son bain, et puis des WC aussi. Donc, on est vraiment, juste pour vous rappeler la construction du château, c'est 1893-1907, donc on est vraiment à une période où, justement, on est en train d'installer des salles de bain, mais ce n'est pas encore tout à fait obligatoire et systématique. Donc Trévarez est vraiment intéressant justement pour comprendre cette mise en place des salles de bain comme on les connaît nous maintenant. En fait, les carreaux de faïence, on a un motif végétal. Il semblerait que c'est une fleur, plutôt une tulipe a priori, mais très très stylisée. Donc on est encore dans l'art nouveau, mais effectivement, c'est un art nouveau qui va annoncer le style qui va arriver ensuite, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, qui est l'art déco. Pour le cabinet toilette et la chambre, James de Kergégu passe commande en 1903. Donc là, on est vraiment en plein dans le style art nouveau. Et les boiseries que vous avez, ce sont des boiseries qui ont été faites en frêne, donc un bois assez clair, et qui effectivement recouvrent l'ensemble des murs de cette pièce, et jamais, eux, ils n'ont été enlevés des murs.
Le parti pris de la restauration, en fait, contrairement au bureau qu'on quitte, en fait, ici, si on a cette restitution, en fait, c'est que la majeure partie des boiseries était restée en place, y compris les carreaux. Donc voilà, la restauration a été possible, avec des ajouts évidemment, parce que les miroirs en revanche avaient disparu, les parquets sont nouveaux, certaines doubles fenêtres sont également des nouvelles fenêtres, et évidemment les tissus ont été mis en place. Mais du coup, on est dans cet intermédiaire de restauration entre le bureau qu'on a quitté, où effectivement il reste très peu d'éléments, et la chambre dans laquelle on va aller, où on en a encore plus.
Ce qui nous manque, c'est le mobilier. On a une liste en fait, de meubles qui étaient ici, mais on ne les a plus, ces meubles. On avait une table à hauteur d'appui, donc probablement à la même hauteur que les boiseries que vous avez là, et quelque chose qui devait ressembler à une sorte de meuble avec à l'intérieur un lavabo intégré, quelque chose dans ce style-là probablement, et des chaises, peut-être aussi une chaise longue aussi, parce que le cabinet de toilette avait aussi comme fonction de pouvoir se reposer du bain qu'on venait de prendre dans la salle de bain. A priori, dans le plan qu'on a du château, qui date de 1897, on sait que la roberie, donc le dressing de monsieur, était plutôt à l'étage, dans l'entresol. On est à l'époque aussi, à la belle époque, où dans ce milieu social, on va se changer plusieurs fois par jour. On s'habille pour aller dîner. Et en plus, on est dans un domaine de chasse, donc probablement qu'il devait faire un peu de chasse le matin, donc se changer ensuite pour aller manger le midi, se rechanger le soir. Donc il faut beaucoup de vêtements, il faut beaucoup de temps pour se préparer, quoi.
Et la couleur utilisée, c'est une couleur qu'on voit souvent en Art Nouveau ou pas ?
Alors, très bonne question. Surtout, c'est une couleur sur la liste, la commande, en fait, elle s'appelle couleur Réséda. Réséda, c'est une plante et ça n'a pas été évident de retrouver justement la couleur. On s'est demandé, au début, les architectes, en fait, ont fait une proposition avec un jaune, mais un jaune citron, comme la couleur qu'on a sur les carreaux de faïence. Mais vous voyez qu'il y a aussi un vert sur les carreaux de faïence, qui est un vert bouteille. Et finalement, c'est sur ce choix-là qu'on s'est arrêté. Évidemment, des chantiers comme celui-ci, on fait appel aussi à des entreprises un peu exceptionnelles encore maintenant. Et notamment des entreprises qui sont assez anciennes et qui ont récupéré aussi des archives d'entreprises qui existaient déjà à la belle époque. Donc là, ça a été le cas notamment, je crois que c'est l'entreprise Le Lièvre qui a racheté les archives d'une autre entreprise. Et ils ont pu récupérer des échantillons et puis surtout se dire que Réséda, ça devait correspondre à cette couleur-là. Et en plus, vous avez remarqué, c'est un tissu qui est très soyeux. C'était à l'origine, ça devait être de la soie. Et qui est très changeant avec la lumière. Là, on a de la lumière. Là, on bénéficie d'une belle lumière qui, du coup, le rend assez clair. Ce qui est moins le cas le soir où là, ça semble plus foncé. Il n'y a que dans la chambre qu'on a une hauteur de plafond aussi importante, enfin dans ces appartements privés là, parce que sur les autres pièces, on a un entresol, donc avec des espaces qui étaient plutôt réservés, donc comme je vous le disais, à son dressing et aux appartements du valet de chambre de James de Kerjégu, le serviteur en fait, qui s'occupait d'habiller, de tout ce qu'il fallait s'occuper pour une personne de ce rang-là.
Cette pièce est beaucoup plus sombre que le cabinet de toilette aussi.
Oui, elle est plus sombre. Bah, vous avez noté, le bois déjà n'est pas le même. L'essence de bois qu'ils ont choisi, c'est de l'acajou de Cuba, donc un bois exotique beaucoup plus sombre. Et la couleur du tissu sur les murs, là aussi de couleur acajou, donc un marron un peu foncé, mais qui, comme dans le cabinet toilette, fonce plus ou moins en fonction de la couleur. Le mot unité, il est très très juste pour qualifier justement aussi l'art nouveau. C'est vraiment l'objectif des artistes de l'art nouveau, qui ne vont pas faire de hiérarchie d'ailleurs entre les beaux-arts et les arts décoratifs. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre autant de soin à dessiner le carton d'un tapis qu'une poignée de porte, comme c'est le cas ici, qu'un lit ou une boiserie. Ils vont avoir cette même attention et puis surtout ils vont penser du coup la chambre. James de Kerjégu, en fait, il a fait cette commande à Bing, mais c'est l'artiste qui a dessiné l'ensemble, c'est Georges Defer, qui était rentré dans l'atelier de Monsieur Bing dans les années 1897. Et là, effectivement, on voit que les bouquets de tulipes se retrouvent sur le lit, sur les armoires aussi, sur ce qu'on pourrait appeler un ciel de lit, qui est tout en haut du lit là. Vous avez repéré aussi peut-être que les armoires vous semblent peut-être très étroites, ce qui est en fait pas le cas, puisqu'elles sont encastrées dans le mur. Ce qui montre bien que c'est vraiment un ensemble qui a été prévu pour cette chambre et pas pour ailleurs. On ne peut pas déplacer l'armoire et se dire bah, finalement je la mettrais bien dans une autre chambre. Non. Ce qui fait que, comme pour le cabinet de toilette, le mobilier que vous avez ici, sauf le lit, n'ont finalement jamais bougé de cet espace-là. Ils ont été démontés à une période, mais entreposé longtemps en fait, dans la chambre, jusqu'à ce que les arts décoratifs alertent le département sur le fait que bah, c'était quand même très, très exceptionnel ce qu'on avait là. Mais voilà, mis à part le lit et la table de nuit qu'on n'a pas encore mais qui va revenir, tout était resté là. Juste pour rappel, ici, il y a un an, on voyait les briques et les pierres sur les murs. Hein. Enfin, nos visiteurs s'en souviennent encore, puisque c'est un espace qu'on montrait que pour les journées du patrimoine. Donc c'était dans un état, j'aime bien dire ça, mais c'est une coquille vide, quoi. C'est comme si on était à l'os, quoi. Donc forcément, dans un premier temps, il fallait remettre de l'enduit sur les murs, enlever tous les planchers. Il y avait un plancher, en fait, qui avait été posé dans les années 90, mais qui ne correspondait pas du tout à ce qui était à l'origine. Donc tout a été enlevé. Il a fallu tout refaire. Donc ça a été assez long, déjà. Et puis ensuite, petit à petit, les boiseries ont été remises en place. Elles avaient été restaurées, quelques années plus tôt. Et puis après, ben, c'est le tapissier qui entre dans la danse. Et donc après, quand ce tissu a été remis, le galon aussi, un galon qui permet de terminer, de faire la jonction entre le mobilier, les boiseries et le tissu, ben c'est le lit qui est revenu. Il y avait eu entre-temps, effectivement, la cheminée, le miroir, voilà, petit à petit, les poignées de porte, qui sont aussi très belles, dessinées aussi par Georges Defeur. L'art nouveau, à l'époque, hein, les critiques qui n'aimaient pas l'art nouveau le critiquaient parce que certains artistes pouvaient être très exubérants, c'est-à-dire que pouvaient accentuer encore plus les courbes, faire des choses un peu considérées comme délirantes, ou de l'art nouille, d'ailleurs, c'était un peu pour dénigrer justement ces artistes-là. Et c'est pas le cas ici, c'est quand même un art nouveau qui est très sage et qui est plus emprunt et puis qui s'inspire aussi de la tradition française et notamment la tradition du mobilier du XVIIIe siècle. Et ça, les critiques de l'époque ont vraiment noté que Georges Defeur était capable de proposer un style de son temps, mais tout en s'inspirant des meilleures heures du style français, le style du XVIIIe. Donc c'est aussi quelque chose qui devait probablement plaire aux commanditaires, à James de Kerjégu, qui voyait là un moyen d'être de plein pied dans la modernité, mais sans non plus trop d'excès ou d'exubérance.